Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Bonjour à tous et bienvenue pour la 41e étape qui démarre à Plouarette et qui va se terminer autour de Morlaix. J'ai pas d'hébergement encore, mais je cherche. Alors je vous avais laissé, j'étais en train d'arriver, mais j'étais pas sûr de mon coup parce que Patrick au téléphone m'avait donné l'adresse et il m'avait dit c'est trop à l'an, L-A-N, et moi sur ma carte il y avait L-A-N-D, alors je me suis dit oh là là, c'est peut-être pas le bon plan. Enfin bon, j'y suis bien arrivé, et tout ça grâce à Dédé Pochon qu'on a entendu hier. Je vous remercie Martine et Patrick parce que quand j'ai dit à Dédé, ah ben je cherche, je l'appelle Dédé moi, faut pas. Quand j'ai dit à André Pochon, je cherchais un hébergement, il m'a dit, ah on va appeler Patrick. Et Patrick, il a dit, ok, tu peux venir.
C'est bien le réseau d'André Pochon, ouais. Il y a plusieurs années qu'on le connaît, Dédé, ouais.
Voilà, moi je me mets à l'appeler Dédé comme vous, mais je n'ai pas cette intimité-là. Alors Martine, quel est ton rêve?
On est en retraite, hein, on prend du temps, du bon temps. Voilà, et puis j'espère que ça va durer. Hein. Ben, je n'ai pas de rêve. Ben, on va se promener, on rencontre du monde. J'aime bien le contact humain. Un coup de fil comme ça, et on reçoit, moi, ça me va complètement.
C'est vrai. Ouais. Bon, ben, c'est gentil, parce que j'en connais, quand on leur dit, oh là là, non, pas un imprévu comme ça, c'est dimanche, bon. Toi, tu es toujours ouverte.
Ah oui, là, là-dessus, on est tous les deux, d'ailleurs.
Ouais. Et alors, toi, tu es fille d'agriculteur, oui. Et tu es devenue agricultrice.
Oui, exactement. Voilà.
Tu as été heureuse?
Très. Surtout qu'on était à quatre sur l'exploitation et on travaillait à mi-temps, quoi. C'était pas intensif. Si, à un moment de l'année, si. Il fallait quand même, quand c'était les pommes de terre. Là, ouais. Mais autrement, c'était une semaine sur deux, la traite. On était privilégiés, hein.
Quand vous dites que vous étiez quatre, c'est qu'il y avait deux couples.
Deux couples, ouais. Deux frères et deux belles-sœurs.
Et ce qui est fort, c'est que les deux frères, ils ont épousé chacun une Martine.
Oui, il y en était deux Martines. Il y avait la petite et la grande.
Et alors, toi, t'es laquelle?
La grande.
Ah. Je sais pas, comme t'es plus petite que moi.
Ah ben oui, c'est sûr.
Ouais. Et alors, Patrick, comment t'as rencontré André Pochon, toi?
Alors, André Pochon, on l'a rencontré quand on s'était engagé à l'installation de produire du lait, faire le moins possible de maïs, voire arrêter le maïs. Un jour, on est parti donc en car visiter son exploitation. On avait visité trois fermes dans une journée. Je me rappelle d'une, c'est celle de Dédé. Et lorsqu'on a vu ces vaches, c'était des vaches à étendre, mais peu importe, hein. Dans la prairie, avec la couche d'herbe, on s'est dit, c'est lui, il est capable de faire ça, nous aussi. Et donc, c'est un pari qu'on s'est donné, et ça a très bien marché. Et aujourd'hui, la ferme tourne en système EAP, et des pommes de terre, mais avec des jeunes qui sont installés sur l'exploitation. Alors, quand on s'est installé, on avait 30 hectares, et il y avait les parents, mon frère et moi, sur 30 hectares. Du coup, lorsque je suis parti chercher du financement pour m'installer, j'avais les diplômes, mais je n'ai pas eu le droit à des prêts parce qu'on n'avait pas assez de surface. Alors on m'a dit, avec Crédit Agricole, avec tout le monde, la solution c'est faire du hors-sol, c'est-à-dire faire du cochon ou faire de la volaille. Voilà. Au départ, on avait notre philosophie, on a gardé notre philosophie, on a dit non, on ne fera pas d'hors-sol, on va se débrouiller autrement.
Et ça a marché, vous avez fait de la vache laitière. Alors, la plupart des agriculteurs qui faisaient de la vache laitière se plaignaient du fait que le prix du lait leur était imposé, que c'était très contraignant, qu'ils ne pouvaient pas prendre de vacances et tout ça. Toi, comment tu l'as vécu?
Oui, c'est vrai que lorsqu'on écoute les agriculteurs, ils sont... On sent qu'ils sont débordés par le travail. Et puis, quand je regarde autour de moi, les fermes continuent de s'agrandir de plus en plus, avec moins de main-d'œuvre. Alors, c'est obligatoirement, les gens sont stressés. Ça ne peut pas tourner comme ça. À un moment, il faut prendre du recul, savoir prendre des vacances, savoir élever ses enfants aussi. C'est important.
Vous avez eu 3 enfants, 2 garçons et une fille.
Oui, Martine était plus souvent avec les enfants que moi, mais on a réussi à concilier le travail et les enfants, et voilà.
Et aujourd'hui, l'exploitation, elle continue à vivre, c'est un neveu qui s'en occupe.
Sur le même principe qu'on a mis en place depuis bientôt 40 ans, il fait de la vache laitière et il fait toujours de la pomme de terre.
Mais est-ce que toi, tu touchais de la PAC ?
Alors, ben non. La PAC, politique agricole commune, les aides, on n'en avait pas parce qu'on ne faisait pas de céréales et on ne faisait pas de maïs. Du coup, on faisait de l'herbe et des patates. Du coup, on avait 0 PAC.
Avec tout le réseau qu'André Pochon a créé, le CEDAPA, vous avez expérimenté quelque chose de différent qui a prouvé que ça marchait, mais vous n'êtes pas plus entendu que ça. Aujourd'hui, on continue à avoir ce système de production de maïs, de blé.
Oui, c'est vrai qu'on a quand même des jeunes qui s'installent sur notre système et qui vivent très bien de notre système. Ils améliorent, ils font la monotraite, ils prennent des vacances.
Ça veut dire qu'on traite qu'une seule fois dans la journée ?
Oui. Ils travaillent sur quoi ? Sur le vélage groupé. Ouais. Et ils ferment leur salle de traite 2 mois par an. Les vaches sont en fait, ils ont 2 mois en vacances. Et pendant ces 2 mois-là, les producteurs, les éleveurs, ils sont aussi en vacances.
Oui, et en fait, les autres ne font pas ça parce qu'ils se disent « Ah mais non, mais si je fais ça, pendant 2 mois, je ne vais plus avoir de revenus du lait. »
Voilà. Après, la course du système maïs-blé, c'est de toujours faire plus et toujours plus. Augmentation de cheptel, des agrandissements, des mises aux normes considérables. Voilà.
Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du mouvement des agriculteurs là, qui manifestaient ?
Moi, j'ai aussi manifesté. Hein. On s'est battu aussi avec notre système. On a gagné des choses. Mais on n'a jamais rien cassé. Je faisais partie de la Confédération paysanne, comme la majorité des gens du CEDAPA. Hein. Qu'est-ce que je pense de voir tout casser comme ça ? Je dis que c'est une honte. Le pire aujourd'hui, c'est qu'ils cassent tout. Ils ont le droit demain à mettre plus de pesticides. Ils vont encore avoir le droit de faire des bassines, hein, des retenues d'eau immenses, s'accaparer l'eau. L'eau est à tout le monde. Hein. L'eau n'est pas non plus aux agriculteurs. Pour moi, c'est une catastrophe.
Alors toi, quand je t'écoute parler, j'ai l'impression que tu fais vraiment la différence entre paysan et agriculteur, et toi, tu te considères comme un paysan.
Ah, moi, je suis un paysan, oui. Parce que dans paysan, tu as beaucoup de choses. Tu as paysage. On a 25 km de haies sur notre ferme, et ce n'est pas un hasard. Les voisins, ils veulent des parcelles de plus en plus grandes, de 10, 20, 30 hectares, et ce ne sera jamais assez grand. Et il n'y a plus de haies, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus rien, la terre est morte, les maïs et les céréales elles poussent parce qu'elles ont de l'engrais et puis des pesticides, voilà. Voilà l'image de l'agriculture aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je dis qu'on va se prendre le mur, et puis le mur, il est toujours en face. Mais ils arrivent quand même encore à le pousser. Quand je dis « ils », c'est la FDSEA et le CDGA, évidemment, puisque le ministère de l'Agriculture n'existe pas, c'est le ministère de la FEDE. Voilà, c'est eux qui décident des orientations.
Quel est ton rêve, Patrick ?
Mon rêve, c'est d'avoir la santé maintenant. Et mon rêve, c'est de voir des jeunes s'installer sur des systèmes herbagers et qu'ils soient heureux dans leur métier. Je pense que c'est pas en donnant des primes aux agriculteurs qu'on va résoudre le problème. Le plus important de savoir, c'est que notre lait produit à base d'herbe nous revenait 7 à 8 fois moins cher qu'un lait produit au maïs. Alors du coup, ça nous a permis de s'en sortir, hein, tous les quatre. Alors, une autre chose en patate qui a été importante aussi, à une certaine époque, on travaillait avec des machines de récolte et on travaillait avec beaucoup de déchets, c'est-à-dire des patates qui étaient abîmées. On travaillait jusqu'à 20% de déchets, 20-25% de déchets. Et là, c'est pareil, on a dit, il ne faut pas qu'on continue comme ça parce qu'on va au casse-pipe. Et on a vu des systèmes alors de travail du sol où ils abîmaient énormément le sol en profondeur. C'était une catastrophe pour la terre. Et on s'est dit, il ne faut pas qu'on fasse ça non plus parce que c'est une catastrophe. Et on s'est dit, on va mettre en place le ramassage manuel. On est parti voir des gens qui ramassaient à la main. Ils nous ont expliqué comment faire. Les premières années, on a pataté, comme on dit. Parce qu'on n'était pas... on n'était pas dedans, quoi. Et avec les années, on a bien perfectionné. Et aujourd'hui, les patates sont encore ramassées à la main. Et les ramasseurs, on n'a jamais mis aucune annonce. C'est de bouche à oreille. Et les patatiers nous demandent, mais comment vous faites pour trouver du monde ? Je dis, la première chose, c'est de payer les ramasseurs.
C'est pas le tout, mais il est déjà à 9h20, il faudrait peut-être que j'aille marcher, parce que sinon, ou alors je vais rester là une deuxième nuit, mais bon, c'est pas le projet, quoi. Il y a quand même une dernière chose dont je voulais parler, c'est que vous parlez breton tous les deux.
Ah, avec mes gauches et brésondes, ma ouais gauche et brésondes. Ma femme ne parle pas breton.
Je comprends tout, hein.
Ouais.
Mais je ne parle pas. Bon.
Et quel est ton plaisir de parler breton ?
Je pense que c'est la première langue que j'ai appris quand j'étais petit, en fait. Et quand je parle breton, ouais, je ne vais pas dire que je reviens en enfance, mais oui, j'adore parler breton et les anciens. Mais...
Tes enfants, vos enfants, vous leur avez appris le breton ?
Non, justement, c'est parce que Martine ne parle pas breton, du coup, je n'aurais pas appris le breton.
Martine, elle tousse. Qu'est-ce qu'il y a, Martine ?
C'est facile, hein, de dire ça.
Ouais.
Et t'aurais pu leur parler breton,
ouais,
hein.
J'aurais dû leur parler breton,
ouais. Ouais,
mais j'ai pas fait.
Oui, mais sur les 7 petits-enfants, il y a quand même 5 qui sont à l'école.
Bretonnant. Voilà. Bon, enfin, moi, il y a un mot que je connais en breton, c'est kenavo.
Ouais, kenavo, ouais.
Voilà, bon, ben...
Kenavo
Wichal.
Et ça veut dire ?
À la prochaine.
Et comment on dit merci en breton ?
Trugaï.
Trugaï.
On dit pas, hein. Personne.
On dit jamais merci ?
Non, en breton, on ne dit pas merci, non.
Ah bon ? Bon, je dis pas merci. Allez, bye !
Ouais. Bye !
Encore une très belle rencontre avec Patrick et Martine. J'ai aimé les écouter parler de leur métier de paysan. Il fait 12 degrés, pas de pluie d'annoncer. Et là, sur le chemin, des traces de fer à cheval. Patrick m'a fait faire le tour de la ferme. Qui est maintenant donc travaillé par son neveu. Et alors, il m'a donné une information capitale. Quand les genêts là sont en fleurs, comme en ce moment, il y en a au bord du chemin, ça veut dire que les moules sauvages sont pleines, c'est le moment d'aller les ramasser. Bon, n'y allez pas tous, hein, laissez-en pour les autres. Alors, je profite de ce chemin herbeux qui ne me mouille pas les pieds, relativement plat, avec un champ de colza à droite, une haie, les fameuses haies dont parlait Patrick. Et d'ailleurs, il m'a donné un indice. Il me dit, quand tu vois des parcelles qui sont très grandes, c'est que les agriculteurs ont coupé les haies. Et donc, voilà, ils travaillent pas correctement. Après, j'avais souvent remarqué, quand je marchais au bord d'un champ, parfois il y avait des herbes qui étaient un peu brûlées, jaunies. Il me dit, ça c'est le Roundup qui tue les herbes au bord du champ. Maryse m'a envoyé un message sur Insta. Bonjour Hervé, ta rencontre avec Monsieur André Pochon est celle qui restera dans un petit coin de la tête. Quelle sagesse! Quel est mon rêve? Acquérir un peu de cette sagesse, de cette clairvoyance. Merci à André. Merci Maryse. Xavier, salut Hervé. Je te vois te rapprocher de l'arrivée à grands pas maintenant et je tenais à te faire part de mes rêves parce que moi, j'en ai beaucoup des rêves. Des rêves d'humaniste, de voir se transformer la société de consommation vers une société d'exploitation avec moins de croissance et plus d'échanges d'expériences. Des rêves mystiques pour atteindre le sentiment océanique, ce sentiment qui se rapporte à l'impression ou à la volonté de se ressentir en unité avec l'univers. Des rêves plus familiaux, comme celui de voir ma grande trouver sa place dans la société et de regarder ma cadette multiplier les expériences, puis de trouver sa voie. Des rêves plus personnels, comme celui d'avoir une forêt à moi, avec un étang et une île au milieu. Celui d'apprendre à pêcher à la mouche et de partir l'expérimenter au Montana. Celui de partir avec mon ami Stéphane en Solex pour un road trip vers l'océan. Des rêves, j'en ai d'autres, comme celui enfin de partir avec mon épouse sur les chemins comme toi, au gré des rencontres, et pratiquer le lâcher-prise. Post-scriptum, je suis d'accord avec toi pour le Taj Mahal. Je vais plutôt proposer à mon épouse Karine les ruines d'Angkor Wat. Ah bah ça tombe bien, Angkor Wat, je les ai vues quand je suis allé au Cambodge, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Post-scriptum 2, j'ai entendu une maxime que je voulais te partager, toi qui as traversé parfois des moments plus difficiles sur tes différents chemins. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Kierkegaard. Merci Xavier pour cette citation de Kierkegaard qui donne tout de suite de la profondeur à cette balado. C'est utile. Véronique, bonjour Hervé, j'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va plutôt pas mal aujourd'hui. L'étape s'annonce bien. Vu que tu te rapproches, poursuit Véronique, de la fin de ta traversée, je me demandais si tu étais plutôt excité à l'idée de l'arrivée et des retrouvailles, et peut-être d'un comité d'accueil amical à Brest, ou nostalgique de la fin de cette belle aventure. Alors, le comité d'accueil, maintenant, j'ai l'habitude de faire des marches, et en général, il est extrêmement sommaire, et c'est très bien comme ça. Moi, ma femme et mes enfants, ils sont à la maison, ils ont leur vie. Et donc, je ne sais pas, surtout que je ne sais toujours pas quand j'arriverai à Brest, par quel chemin. Donc, on improvise et ça va très bien. Si j'étais dessinatrice, je t'imaginerais avec dans ton sac à dos, débordant de partout, dans toutes les poches, toutes les personnes que tu as rencontrées, avec leurs sourires, leurs émotions, leur histoire. Je vois bien ce dessin, sans être capable de le dessiner. Mais hier, je pensais à cette image de toi et de tout ce que tu as glané. Et cela m'a fait sourire toute seule dans mon lit. Une autre envie, pour ton arrivée à Brest, que tous ceux que tu as croisés se retrouvent pour partager, échanger, festoyer, chanter. Et il y en a tellement qu'on aurait envie de connaître et faire une belle fête tous ensemble. Eh bien, voilà un nouveau rêve. Je t'envoie plein de belles pensées des Vosges. Véronique, l'instit qui chante et qui fait chanter. Merci Véronique. Mais ça ferait beaucoup tout le monde à l'arrivée, Véronique. Non, c'est ça qui est bien avec les balados. Tout le monde est dans la balado, on peut les mixer et ça donne du bonheur. Et le pouillot vélo se fait entendre dans le vent. Je viens d'entrer dans Pont-Menu et je suis donc dans le Finistère et il y a un monsieur avec une brouette. Est-ce que je parle votre prénom ?
Sylvain.
Quel est votre rêve, Sylvain ?
La révolution. Ah. Transformation radicale de cette société. Pour quelque chose de plus désirable que ce qui est là actuellement.
Et vous commencez par quoi ?
Par le quotidien et le local en lien avec ce qui se fait plus généralement.
Mais concrètement, vous faites quoi, vous, pour la révolution ? Parce que là, vous avez une brouette.
Ici, il y a un lieu collectif qui s'est monté, qui est un lieu d'auto-organisation et au niveau matériel, où il y a des ateliers, une cantine, enfin un fournil, une grande salle où il se passe beaucoup de choses en termes d'ateliers, de soirées, concerts, spectacles et résidences, et qui a vocation à permettre à plein de gens de faire plein de choses.
Pardon, c'est ça qui s'appelle la dérive ?
Exactement.
Parce que j'ai vu marquer ça sur la boîte aux lettres, il y avait cirquerie, et puis il y avait marqué pour la dérive, aller à gauche. Et alors je suis tout content, parce que déjà je trouvais le nom, la dérive, vers quoi on dérive, quoi ?
Vers quoi on dérive, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des tentatives d'essayer de faire des choses à notre échelle. Et déjà au présent, et faire exister ce qu'on espère faire advenir plus lointainement. Et du coup, là, ici, dans cet espace, mais avec une ouverture et en lien avec les luttes sociales, écologistes et autres.
Et concrètement, vous faites quoi dans ce collectif ?
Alors, moi, là, je viens de ramener du matériel d'apiculture à stocker. Du coup, je suis apiculteur amateur. Je suis aussi beaucoup investi dans le jardin collectif et autour des questions de soins. Il va y avoir un nouveau lieu là prochainement qui va avoir cette dimension d'accueil et de soins ouvert sur toutes les personnes qui en ont besoin.
Et je peux vous demander votre âge ?
39.
Et vous gagnez votre vie comment ?
RSA. Ah, oui. RSA est complété par différentes choses, la pratique du soin et l'apiculture et un peu de bricolage divers.
Dans la pratique du soin, vous soignez quoi, avec vos mains ?
Oui, c'est un dérivé d'ostéopathie.
D'accord.
Mais que je pratique à prix libre pour que ce soit accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. Et comme ce n'est pas remboursé par la Sécu, c'est garder une forme d'accessibilité large. Toutes les personnes peuvent venir et donnent selon leurs moyens.
C'est ce qu'on appelle en donativo, quoi. On donne ce qu'on peut.
C'est ça.
Ouais. Bon, bah, je ne vous retarde pas plus, Sylvain, et je vous remercie d'avoir pris un petit temps. Bon, bah, je vous laisse repartir avec votre brouette dans le Finistère, Sylvain, et moi je continue mon chemin. J'ai laissé partir Sylvain avec sa brouette, et moi je traverse Pont-Menoux. Mes premiers pas dans le Finistère, le dernier département que je traverse, alors que le vent souffle, il y a un peu de ciel bleu, mais des nuages un peu plus sombres. Je réalise que je suis entré dans le Finistère le 29 avril. Vous l'avez la référence ? 29 ? Bon, à part ça, j'espère que vous avez lu la Gazette. Oui, certaines personnes n'aiment pas la Gazette. Mais je respecte tout à fait. Mais c'est pas la peine de vous en prendre à Léonard si vous n'aimez pas sa Gazette. Ne la lisez pas. J'ai oublié de remercier pour le dîner d'hier soir. Parce que chez Martine et Patrick, le dimanche soir, normalement, c'est chocolat chaud. Mais là, ils se sont dit, oh là là, le pauvre, il a dû marcher, on va pas lui servir un chocolat chaud, ça va pas le faire. Donc, j'ai eu droit au rôti de bœuf de la ferme et aux légumes maison. Alors là, et une salade qui venait d'être cueillie. Mais c'était le bonheur absolu. Au loin, on entend la Nationale 12, et plus près, eh ben, y a le Pouillot Véloce, la Fauvette à tête noire, et le Merle Noir. Bel orchestre pour l'arrivée à Morlaix, où j'ai un hébergement, grâce à Valérie et Christine, leur réseau breton efficace. C'est par elle que j'étais arrivé chez Jean-Luc, à Ivignac-la-Tour. Et là, j'arrive à Morlaix, place de la Madeleine, et j'entends de la musique.
Je vais faire la quête avec.
Ah bah j'arrive bien.
Mais ouais.
Bonjour messieurs.
Bonjour.
Dames.
Bonjour.
J'ai entendu
la musique.
Oh. Je me suis dit, tiens, je peux faire une petite interview. Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Jeannine.
Quel est votre rêve, Jeannine ?
Mon rêve, ben, d'être bien, de chanter, voilà. J'aime bien chanter.
Et alors, qu'est-ce que vous chantez, là ?
Eh ben là, je chantais La Fille de Recouvrance.
Et c'est quoi votre groupe ? Il a un nom ?
Non, pour l'instant,
c'est... Chambarin. Chambarin, Chambère.
Tout Riverbond.
Voilà. Vous produisez quand ?
La fête de la musique, que nous préparons pour le bar des Deux Rivières.
Le 21 juin. On prépare la fête de la musique.
Ah, d'accord.
Nous avons un collègue qui est le chef de bar ici.
Ah, c'est vous le... Le tenancier.
Non, ici, c'est un bar associatif.
Et qu'est-ce que c'est un bar associatif ? C'est un bar où on peut consommer, c'est moins
cher ?
C'est un
bar culturel. Oui, en principe, c'est moins cher. Oui. En principe, c'est moins cher.
En principe, pourquoi ? C'est pas moins cher ?
Bah, ça dépend. Sur certains produits, on peut peut-être être plus cher.
Ah, oui.
Peut-être. Mais bon.
Mais c'est votre métier ou vous faites ça en plus ?
Ah non, on fait ça en plus. On est en retraite, nous.
Vous avez vu la couleur des cheveux, quand même ? Comme vous, un peu ?
Bah, c'est ça. Ouais. Comme moi, je suis pas retraité, moi. Et pourquoi il s'appelle le Café des Deux Rivières ?
Parce qu'ici, à Morlaix, il y a deux rivières, le Kefleut et le Charlot. Ici, c'était ici qu'a été créée la Coref. La Coref qui est à Carré avant, mais elle a débuté ici.
C'est quoi la Coref, vous dites ?
La Coref, c'est de la bière. La bière. Vous venez d'où ? Vous n'êtes pas breton ?
Ben non, j'arrive de Strasbourg.
Et vous avez tous vos papiers, oui ?
Ben, j'ai pas mes vaccins en règle.
Chez nous, on dit parisien, tête de chien. Et à Morlaix, s'ils te mordent, Morlaix.
C'est la devise.
Ouais. S'ils te mordent, Morlaix.
Voilà. S'ils te mordent, Morlaix, oui.
Et vous êtes morlésienne ?
Et je suis morlésienne, oui. En 1946.
Vous ne les faites pas. Vous avez un site pour les gens qui veulent...
On démarre.
C'est quoi, c'est la première fois ?
C'est le premier jour de répétition.
Pour préparer la fête de la musique.
Voilà.
Et c'est la première fois que vous participez à la fête de la musique ?
Ah non ! Oh ! Moi, je chante depuis...
Ah voilà,
on est bande de copains et on s'est retrouvés. Et donc, Dédé, qui s'occupe de l'association des Deux Rivières, nous a sollicité pour éventuellement faire notre petit groupe pour cette journée-là. Et on lui a dit « Ok ». Alors moi, c'est Jean-Jacques.
Pierre.
Michel.
Dédé.
Ça va, c'est pas trop difficile, Janine
Ah non. Moi, je m'entends avec tout le monde.
Bon, bravo. Voilà.
Et Janine, vous avez travaillé dans la chanson avant?
Non, jamais. J'étais infirmière.
Ça vous a plu?
Oui, très bien. Bon. Très bien. C'était à l'époque. Hein. C'est peut-être plus pareil. C'était avant.
Mais c'était infirmière à l'hôpital ou...
À l'hôpital de Morlaix.
Et Jean-Jacques, quel est votre rêve?
Moi, c'est de continuer comme on est là, de s'amuser, de pouvoir profiter un peu de ce qui nous reste. Puisqu'aujourd'hui, les priorités, c'est comme la santé. On a tous subi un petit peu quelque chose. Donc on s'amuse. Voilà.
Si vous voulez venir les écouter, c'est pas compliqué. Le café Les Deux Rivières à Morlaix, le 21 juin, pour la fête de la musique.
Voilà.
Je connais un endroit sur la côte ensoleillée où le temps là-bas s'est arrêté. Il y a quelques vieux marins qui boivent sans remords et qui chantent des refrains salés. Le patron quelquefois nous sort l'accordéon, la patronne secoue ses jupons. Quand la bière coule à flot, tu portes un numéro, il y a du roulis comme sur un bateau. Allez viens, on danse encore au café du pont. Quand les filles crient OK, c'est que ça va chauffer. Ça sent le rhum, le vieux tabac et le vent salé. Allez, viens, on sert encore au café du port.
Merci pour votre accueil.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.